Mais quand, selon Éphésiens chapitre 4, que quand le Seigneur est monté en haut, il a donné les dons aux hommes. En fait, il a donné à l'Église les dons du ministère. Il a donné les uns comme les apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs. Et nous avons parmi nous un homme de Dieu que je connais quand même depuis assez longtemps. On n'a pas passé énormément de temps ensemble, mais on s'est rencontrés la première fois en 1988. Donc, c'est quand même un petit bout. Ouais, c'est 21 ans. Je viens de le réaliser, hein. Je suis très jeune quand même. Mais, en tout cas, ça c'est un peu bizarre. 21 ans. Donc, mais c'est un homme de Dieu qui a énormément, presque 30 ans d'expérience dans le ministère. Et il est actuellement pasteur à Lugano, en Suisse, qui est dans le sud du pays, proche de l'Italie. C'est une église italienne, il parle italien, et voilà. Mais je veux juste vous dire une chose, c'est que pour moi, c'est un honneur et un privilège de pouvoir recevoir Donato chez nous. Je sais qu'il y a des dépôts de l'Esprit que le Seigneur veut faire. Quand le Seigneur nous envoie un autre homme de Dieu, un serviteur de Dieu qui est oint de son esprit, quand il nous envoie un de ses dons, on ne veut pas passer à côté de ce que le Seigneur veut faire. Donc, il y a quelque chose de particulier que le Seigneur veut déposer dans votre cœur. Il y a une œuvre particulière qu'il veut faire dans votre vie. Il veut nous transformer ce matin en tant qu'Église et en tant qu'individu. Et voilà, je veux vous inviter à recevoir avec moi ce matin notre bien-aimé pasteur Donato Anselon. Est-ce qu'on peut remercier le Seigneur pour lui ce matin?
Grazie pastore, è una gioia di essere con voi stamattina. Avete le vostre Bibbie con voi stamattina? Sì. Esattamente. Possiamo dare un applauso al pastore. Bravo pastore. Vous ne savez pas que votre pasteur parlait l'italien? Ah, maintenant vous le savez, hein, d'accord? C'est vraiment super. Quelle joie d'être avec vous. Wow! Et vous avez l'air tous beaux, tous souriants. J'ai vu là quelque part, il y avait marqué « Votre sourire, c'est mon salaire ». C'est pas mal ça, hein? C'est où? C'est marqué dans un des bureaux. « Votre sourire, c'est mon salaire ». Eh bien, c'est super quand vous souriez comme ça. Ça fait du bien. Vous savez, le sourire est contagieux. J'avais raison, hein? Hein? Gloire à Dieu. C'est une joie pour moi d'être ici avec vous. Je connaissais en effet le pasteur et son épouse depuis de nombreuses années. Je suis venu chez vous il y a peut-être en 2000, 2001, je ne me souviens pas, la dernière fois. L'année passée, j'étais ici un mercredi soir, mais deux passages, zoom, entre deux. Hein? Mais c'est toujours une joie de parler avec le pasteur, d'avoir des contacts avec eux. Et quel travail extraordinaire qu'ils font. Vous ne trouvez pas? Hein, moi, j'étais vraiment content. J'étais ici ce week-end à l'occasion du centre de formation Réma. Et je peux dire simplement combien ce travail est tellement important pour l'Église de demain, mais aussi pour l'Église d'aujourd'hui. Amen. On a tellement besoin d'être formés dans la parole de Dieu, de recevoir les principes de la parole de Dieu qui nous changeront notre vie. Paul parle d'une doctrine. Il dit, vous avez pris cette doctrine qui a changé votre vie. Amen. Cette doctrine qui nous a libérés de toute la puissance du péché et du mal. Et on a besoin de la doctrine de Jésus-Christ qui nous libère et qui nous donne la vie éternelle. Amen. Et donc, merci aussi à Réma pour cette grande opportunité que Réma France et Réma Québec peuvent faire pour former des gens. Et c'était un honneur pour moi d'être parmi vous, hier en tout cas pour les étudiants, mais aussi parmi vous aujourd'hui ce matin. Amen. J'ai une superbe épouse. C'est la plus belle de mon monde. Et elle est vraiment merveilleuse et j'ai des superbes enfants, sont les plus beaux du monde aussi, d'accord? Un jour je me suis dit, mais pourquoi chacun dit que sa femme est la plus belle du monde ou que leurs enfants sont les plus beaux du monde? Non, c'est les miens qui sont les plus beaux du monde. Jusqu'au jour où j'ai appris quelque chose. Parce qu'un jour j'avais des amis et ils ont eu 3 enfants. Et tous les 3 enfants étaient aussi laids l'un que l'autre. Une tête carrée à la naissance, carrée comme tout. Et la maman les prenait en main et dit, oh, qu'il est beau, oh, c'est le plus beau de tout le monde. Et puis je me suis dit, oh, ce que vous voulez dire, c'est le plus beau dans votre monde. Amen. Dans mon monde, mes enfants sont les plus beaux. Peut-être qu'ils ont des têtes carrées aussi, hein, mais ils ont les plus beaux du monde quand même. Et dans votre monde, votre propre famille est la plus belle au monde aussi, n'est-ce pas? C'est la même chose pour notre église locale. Notre église locale est la plus belle au monde. Alléluia. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut dire alléluia avec ça? Notre église locale est la plus belle au monde. L'église de Drummondville ici est la plus belle au monde. Dans votre monde, c'est la plus belle des églises. Amen. Et quand vous allez là-bas, à Syracuse, ça va être super, mais ça pas comme ici. Parce qu'ici, c'est le meilleur au monde. Alléluia. Vous avez vos Bibles avec vous ce matin? Montrez-moi votre Bible. Et dites avec moi ceci. Ceci est ma Bible. Je suis ce qu'elle dit que je suis. Je possède ce qu'elle dit que je possède. Et je peux faire ce qu'elle dit que je peux faire. Ce matin, je recevrai la semence incorruptible de la parole de Dieu qui entre dans mon cœur, porte du fruit, change ma vie et je ne serai plus jamais le même. Amen. Ouvrez vos Bibles où vous voulez. Moi, je l'ouvre dans le psaume 121. Alléluia. Le psaume 121, c'est entre la Genèse et l'Apocalypse. Au cas où vous ne saviez pas. Psaume 121, page 674. Je lève mes yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours? Le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Il ne permettra point que ton pied chancelle. Celui qui te garde ne sommeillera point. Voici, il ne sommeille ni ne dort celui qui garde Israël. L'Éternel est celui qui te garde. L'Éternel est ton ombre à ta main droite. Pendant le jour, le soleil ne te frappera point, ni la lune pendant la nuit. L'Éternel te garde de tout mal. Il gardera ton âme. L'Éternel gardera ton départ et ton arrivée. Dès maintenant et à jamais. Alléluia! Waouh! Ça, c'est une promesse de la parole de Dieu. Et cette promesse, elle est la vérité. La Bible dit, vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous rendra libre. Et cette promesse est la vérité. Voyez-vous, nous vivons dans une période extrêmement difficile dans la terre. Énormément de crises, de catastrophes. Et les gens sont tous en train de regarder un homme. Ou peut-être deux. En Europe, on regarde l'Amérique. Et on espère que le président américain va trouver la solution. En Amérique, on regarde en Europe. Et on espère que les Européens font exactement ce que les Américains font. En Europe, en Chine, on regarde en Europe et en Amérique. En Belgique, on regarde à soi-même, puisque c'est la capitale de l'Europe. Et à la fin, on regarde, on lève les yeux vers les montagnes et on se dit, mais d'où me viendra le secours? Voyez-vous, dans les montagnes d'Israël, les montagnes étaient souvent les endroits de ce qu'on appelait les hauts lieux. Et souvent les hauts lieux qui étaient réservés et élevés pour des faux dieux. Et David, en plein milieu d'une crise, dit « Je lève les yeux vers les montagnes. » Et sur chaque montagne, il y a des hauts lieux, tous livrés à des idées et tout. D'où me viendra le secours? Le secours ne me viendra pas de ces hauts lieux, de tout ce que l'homme a fait, de toutes les institutions humaines. Le secours ne me vient pas de ce que l'homme a pu forger par sa propre imagination. Le secours me vient de celui qui a créé les montagnes. Alléluia. Et son nom est Jésus-Christ. Amen. D'où me viendra le secours? De celui qui est plus grand que les montagnes, de celui qui déplace les montagnes, de celui dont les montagnes tremblent rien qu'au son de son nom. Amen. Nous, on entend le nom d'une armée et on tremble. Non, lui, il entend les montagnes, les armées entendent le nom de l'Éternel et c'est elle qui tremble. Oh, mes amis, il n'y a rien qui est plus grand que l'Éternel. Je lève les yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Que chacun d'entre nous puisse vraiment être clair avec ceci. Rien de ce qui a été humain ne pourra apporter la solution à nos problèmes. Rien de ce qui est humain peut apporter la solution à nos situations, à nos circonstances. Mais quand nous levons les yeux au-dessus des montagnes, il y a quelqu'un qui est là-haut et son nom est Jésus-Christ. Je lève mes yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours? Le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Alléluia! Amen! Le Seigneur qui a créé les cieux et la terre. Un de nos amis, pasteur Ken et moi-même, John Rood, j'étais son pasteur assistant pendant 10 ans. Pourquoi étudier les étoiles et pas étudier le créateur des étoiles? Alléluia! Et je crois que c'était une bonne chose qu'il a faite, ça. Et ça a été très bon pour l'avenir. Écoutez, il n'y a rien de mieux au monde que de connaître celui qui crée. Alléluia! Je lève les yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Dans 2 Timothée, Paul va dire quelque chose de très fort. Regardez avec moi ceci. 2 Timothée 3, versets 1 à 5. Je voudrais vous aider ce matin à voir où fixer nos yeux. Hébreux dit, fixiez vos yeux sur Jésus, qui est l'auteur et le consommateur de votre foi. Je lève les yeux vers les montagnes. D'où viendra le secours? De Jésus, qui est l'auteur et le consommateur de ma foi. Amen. Qui est celui qui connaît les limites de ma foi et qui vient et qui comble ces limites. Amen. Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Je crois que au plus où on avance, au plus il y aura des temps difficiles. Car les hommes seront, et voilà pourquoi Paul dit cela, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, impies, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plutôt que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais en reniant ce qui en fait la force. Et Paul continue, éloigne-toi de ces hommes-là. Amen. Waouh, quand on lit cette liste, on se dit, Mamma mia! Mais qu'est-ce qui va se passer sur la terre? Le monde est en train d'entrer dans une nouvelle dimension, une nouvelle sphère de cette vie. Le monde va et les gens vont être de plus en plus égoïstes. Ils vont s'aimer eux-mêmes, ils vont aimer l'argent, ils vont aimer le plaisir, ils vont aimer l'impiété, la rébellion et toutes ces choses-là. Et pourtant, David dit, je lève les yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours? Le Seigneur dit, éloigne tes yeux de cela. Éloigne tes yeux de ces hommes-là. Mes amis, les hommes nous décevront toujours, mais Dieu ne nous décevra jamais. Lorsque Dieu est avec nous, il va nous donner les ressources nécessaires pour être plus que vainqueurs sur ce monde. Y a-t-il quelqu'un qui est plus que vainqueur ici? 3. Y a-t-il quelqu'un qui est plus que vainqueur ici? 7. Y a-t-il quelqu'un qui est plus que vainqueur ici? Tout le monde, bravo! Alléluia! Dis à ton voisin, tu es plus que vainqueur! Alors c'est marrant parce que vous auriez dû vous voir quand vous le disiez. Il y en a un qui dit, ah, t'es plus que vainqueur. L'autre qui dit, t'es plus que vainqueur. L'autre qui dit, t'es plus que vainqueur, mais quand il entend l'autre lui dire, t'es plus que vainqueur, il dit... Voyez-vous, on n'est pas plus que vainqueur parce qu'on se sent plus que vainqueur. On est plus que vainqueur parce que la parole de Dieu dit qu'on est plus que vainqueur. Ce n'est pas basé sur nos émotions et nos sentiments. Et nos sensations, c'est basé sur la vérité qui a été scellée par Jésus-Christ. Nous sommes plus que vainqueurs. Hallelujah. Voyez-vous, souvent, une des raisons pour lesquelles on se sent un petit peu abattu, et on se dit, oh, les choses n'ont pas l'air d'aller bien pour moi. Comment va être mon futur, mon avenir? Qu'est-ce que Dieu va faire pour moi? Où je vais m'en sortir? Est-ce que je vais pouvoir m'en sortir? Et très souvent, on se laisse abattre parce qu'au lieu de regarder plus haut, on regarde simplement les montagnes. Alors ici, vous n'avez pas beaucoup de montagnes. En Suisse, on en a beaucoup. Chez nous, c'est super. On a les montagnes, les palmiers et la neige. Et le lac. Mais on a les montagnes autour de nous. Et puis, quand on voit ces montagnes, on se dit une chose. Dieu ne nous a jamais dit de franchir les montagnes. Il nous a dit de dépasser les montagnes. Alléluia. Il nous a parlé d'aller de vallée en vallée. Il a dit dépasser les montagnes, marcher et aplanissez le sentier. C'est ce que la Bible dit de faire. Voyons, on regarde, et souvent, l'objet de nos yeux regardent un endroit qui n'est pas l'endroit correct. La Bible nous dit plusieurs endroits que nous devons voir. Et je voudrais qu'on les voit ensemble. Je vais vous donner 7 lieux stratégiques dans la prière. Voyez-vous, dans le monde de l'esprit, la stratégie, la géographie n'est pas comme dans ce monde-ci. Nous, on voit nord, sud, est et ouest. Dans le monde de l'esprit, il y a une autre stratégie, il y a une autre géographie. Et je voudrais qu'on voit ensemble quelle est la géographie, qu'est-ce que Dieu veut que nous voyons ensemble. D'accord, hein? La Bible dit dans Ésaïe 41, 10, « Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. » Alléluia. Et Dieu nous dit, ne promène pas des regards inquiets. Ne regarde pas autour de toi avec inquiétude. Lève la tête. Ce n'est pas lui qui dit, je suis ta gloire et je relève ta tête. Je ne sais pas si vous avez saisi cela. Je suis ta gloire et je relève la tête. Alléluia. Je relève ta tête. Tu peux marcher de manière digne en tant que plus que vainqueur, en étant la tête et pas la queue, parce que Dieu te relève la tête. Alléluia. Amen. Hein? 7 lieux stratégiques qui vont débloquer le fleuve d'eau vive qui sort de nous et qui rendent la cité de Dieu joyeuse. Amen. La première chose, c'est regarder en haut. Amen. Je lève les yeux vers les montagnes et puis relevez encore les yeux un peu plus haut et voyez qui est là-haut. Amen. Regardez vers le haut, connectez-vous avec le Seigneur. En élevant les mains, vous connectez votre cœur avec Dieu. Vous lèvez le Seigneur. Le matin, lorsque nous louons le Seigneur, c'est juste de lever les mains. Et nos mains, c'est comme un symbole de notre cœur qui s'élève vers le Seigneur. Et on se connecte avec Dieu. Hey, il n'y a aucun secours si Dieu n'est pas au milieu du secours. Alléluia. Hein? Le Saint-Esprit, lorsque nous levons les mains et nous adorons le Seigneur, le Saint-Esprit veut déposer en nous un dépôt de bénédiction. Il veut transmettre son onction, il veut transmettre ses réponses, il veut transmettre tout ce qui est pour vous de la part du Seigneur. Lève les mains, adore le Seigneur, regarde le Seigneur. Ne regardons pas les circonstances, regardons le Seigneur. Amen. Quelqu'un dit, oui, mais tu ne comprends pas, les circonstances sont grandes. C'est vrai. Merci d'avoir soulevé la question. Voyez-vous, ce petit bouchon bouteille, il est grand ou il n'est pas grand? Il n'est pas grand, hein. Pourtant, si je le mets devant mon œil, il est tout grand. Oh Seigneur, c'est tellement grand! Oh Seigneur, pasteur, où es-tu pasteur? Mon problème est tellement grand que je ne vous vois plus. Mais mon oreille vous entend. Pasteur! Pasteur, c'est tellement dur la vie. C'est tout trouble. Je ne vois plus. Mon problème est si grand. Et puis le pasteur dit, mais non mon frère, ton problème n'est pas si grand. Pasteur, vous ne me comprenez pas. Vous ne comprenez rien. Vous êtes pasteur, vous êtes un homme de Dieu, vous connaissez beaucoup les choses. Mais moi, je sais. Mais moi, c'est tout ce que je sais faire, c'est pas mon problème. Voyez-vous, si votre problème est en face de vos yeux, pourquoi vous rigolez là? Si votre problème est en face de vos yeux, il sera toujours grand. Amen. Mais si vous allez vers Dieu et vous lui montrez votre problème, il dit, mais il est tout petit. D'ailleurs, si tu le mets dans la main, tu peux le fermer, on ne le voit plus. Voyez-vous, au lieu d'aller vers votre géant, de votre problème, pardon, au lieu d'aller vers Dieu pour lui dire combien grand il est notre problème, allons vers notre problème pour lui dire combien grand il est notre Dieu. Alléluia. Où c'est que l'on va voir? Qu'est-ce qu'on regarde? J'ai intérêt à mettre mes lunettes, sinon je ne vous vois pas. Qu'est-ce qu'on regarde? Hein? Fixons nos yeux en haut, regardons en haut, là où Dieu est. Amen. Alléluia. Dans Luc chapitre 21, versets 25 à 28, Jésus est en train de parler de ce qui va se passer dans la fin des temps. Il va avoir des difficultés, des moments difficiles. Il va avoir des signes dans les cieux. Ça va être vraiment un moment terrible. Mais Jésus dit, quand vous verrez ces choses, redressez-vous, levez la tête, car votre délivrance arrive. Alléluia! Qu'est-ce qu'on va voir dans la géographie du ciel? On lève les yeux et on regarde les cieux, on regarde Dieu, parce que notre délivrance arrive. Alléluia! Amen! Dans 2 Chroniques, oh que j'aime beaucoup ça, pour ceux qui connaissent cela, dans 2 Chroniques au chapitre 20, si vous avez le temps de lire à la maison, lisez, c'est l'histoire de Jéhoshaphat. Jéhoshaphat est attaqué. En fait, toute l'armée d'Israël est entourée des Moabites, des Ammonites, des Bébécites et des Moanites. Des Moabites, des Ammonites et des Bébécites, disait mon fils. Il voulait dire des Moabites, je ne sais pas ce qu'il voulait dire. Un jour, il vient à l'école des enfants, il dit, « Papa, on a appris que le roi Saül, il a détruit les Bébécites. » J'ai dit, non, il n'a pas détruit. Mais oui, papa, c'était les Bébécites. Non, j'ai dit, c'était probablement les Jébusites, mais pas les Bébécites. Les Bébéciteurs, hein. Et donc, et Jéhoshaphat est là. Il est entouré de cette armée. C'est comme une pression énorme sur lui. Il ne sait plus que faire, mais une chose il fait. Il va relever les yeux. Amen. Et il va commencer à adorer le Seigneur. Et mes amis, le premier lieu, la première place géographique, spirituelle où on doit lever les yeux, c'est vers le ciel. Levez les yeux en haut et la victoire sera éclatante. Amen. Deuxième lieu où nous allons élever les yeux, regardez à l'intérieur de vous. Deuxièmement, regardez à l'intérieur de vous. Premier, deuxième, regardez en vous. Et apprenez à savoir qui nous sommes en Jésus-Christ et qui est celui qui habite en nous. Qui c'est qui habite en nous? Vous savez, j'ai appris, mon pasteur, quand j'étais tout petit, mon pasteur disait toujours que quand un Asiatique fait comme ça, ça veut dire « je salue le Dieu qui est en toi ». Ils sont plus conscients qu'il y a quelque chose en eux que nous, on est conscients que le vrai vit en nous. Et donc, regardons qui est en nous. Celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans le monde. Waouh! Vous les avez vaincus, la Bible. Oh, je vais lire ça avec vous. Oh, c'est trop beau. Jean 4, 4 à 6 dit ceci. Je lis le verset 4 seulement. Vous, petits enfants, vous êtes de Dieu et vous les avez vaincus parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Regardez ça! Vos petits enfants, il ne parle pas encore des gens qui sont matures en Christ, il dit déjà, vous petits enfants, vous avez vaincu la puissance de l'ennemi, car celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. La victoire que nous avons n'est pas basée sur nous, elle est basée sur celui qui vit en nous. C'est pour ça qu'il peut dire, petits enfants, vous les avez vaincus. Amen. Regardons en nous et apprenons à nous connaître nous-mêmes, à savoir que nous sommes la justice de Dieu et que nous marchons dans la justice. Nous avons un accès libre à la présence du Père. Est-ce que quelqu'un sait c'est quoi la justice de Dieu? Je vais vous montrer un beau petit exemple, mais j'ai besoin de Monsieur Plassier. Venez ici, s'il vous plaît. Marc, c'est ça, hein? Marc, hein? Marco. Vous êtes italien? Marco. Alors, ceux qui étaient à l'école biblique hier, s'il vous plaît, ne dites rien. D'accord? Mais imaginez-vous que Marco arrive sur la planète Mars. Montez sur la planète Mars. Voilà. Et que moi, je suis un martien et je viens le voir. Bon, les martiens n'existent pas, ce n'est qu'une illustration. Hein? Et je vois, je dis, on est à plusieurs martiens. Non. Et je me dis, mamma mia, il y a quelque chose d'étrange. Qu'est-ce que j'aurais vu? Dites-moi, qu'est-ce que j'ai vu? Vous êtes tous des bons gars, hein? Qu'est-ce que j'ai vu, dites-moi? Un terrien. Qu'est-ce que j'ai vu? Quelle couleur il avait ses cheveux? Quelle couleur ont ses yeux? Bleu. Qu'est-ce que j'ai vu? Dites-moi. Est-ce que j'ai vu ses cheveux? Non. Pourquoi? Parce qu'il est revêtu d'une combinaison spatiale. J'ai pas vu lui, j'ai vu la combinaison. Amen. Eh bien, vous savez quoi? La Bible dit que nous aussi, nous avons revêtu une combinaison spatiale. Elle n'est pas spatiale, mais une autre combinaison. Et elle s'appelle Jésus. La Bible dit que nous sommes revêtus de Jésus. Et lorsque l'ennemi nous voit, il ne voit plus Marco, il voit Jésus à travers Marco. Lorsque vous élevez les mains pour dire stop à l'ennemi, l'ennemi voit sur la combinaison, sur Jésus qui est en vous, il voit encore les marques des mains. Alléluia! Nous devons saisir que nous sommes la justice de Dieu. Amen. Et que nous avons avec Jésus. Nous sommes de notre nature en Jésus. Nous pouvons entrer dans la salle du trône sans avoir aucune peur. Et les anges ouvrent les portes pour nous parce que Jésus est avec nous. Alléluia! Amen! C'est pour ça qu'on s'appelle. Amen! C'est pas vrai! Le plus grand. C'est en nous. Et quand nous sommes. Que celui qui est en nous est plus grand. Ce qui veut dire aussi que lorsque nous sommes envoyés comme des brebis devant un troupeau de loups, eh bien nous allons pouvoir parler. Et quand nous parlons, c'est comme le rugissement du lion. Alléluia. Alors, pour la première fois, les loups vont avoir peur des moutons. Parce que les moutons vont parler comme des lions. Quand vous parlez, quand vous dites non à l'ennemi, il n'entend pas non. Il entend comme un lion qui parle. Alléluia! Vous avez cette puissance de Jésus-Christ. Et cette puissance est en vous. Selon 1 Jean 3, les versets 1 à 3, vous pouvez l'écrire pour vous. La Bible dit que En regardant à l'intérieur de nous, pour voir qui nous sommes, pour connaître que nous sommes la justice de Dieu, et qui vit en nous, nous coupons tout ce qui est mauvais, tout ce qui est mauvais en nous, tout ce qui nous sépare de la puissance de Dieu, et tout ce qui nous empêche d'être comme des lions rugissants. Alléluia! Qui sommes-nous? Regardons en nous. Voyons ce que Christ a fait en nous. Apprenons à voir à travers nous, pas voir notre peau, mais voir notre cœur, voir notre esprit. Regardons en haut, regardons en nous. Ensuite, troisième chose, troisième lieu, regardons occasionnellement en arrière. Alors, quand je dis regardons en arrière, ça ne veut pas du tout dire de regarder en arrière comme le gars qui va commencer à pleurer sur son passé. Oh, c'était beau. Oh, quel beau vieux temps. Oh, c'était bien quand on était dans les bras de papa et de maman. Oh, que c'était bien. Non, on ne regarde pas en arrière pour regretter le passé. On ne regarde pas en arrière pour essayer de retourner dans le passé. Vous savez, à un certain moment, le peuple de Dieu qui avait été délivré d'Égypte voulait retourner en Égypte. Hein? Il disait les oignons étaient meilleurs là-bas, les concombres étaient meilleurs là-bas. Ici, tout ce qu'on a, c'est des snacks à la manne. Ou bien des sandwichs pleins de manne. Et c'est la manne toute la journée. Et de temps en temps, on a la caille, c'est tout. Alors, il dit, on veut retourner en Égypte. Mais ce n'est pas ce genre de retourner en arrière que je vous dis. La Bible nous dit aussi, bénis l'Éternel, ô mon âme, et n'oublie aucun de ses bienfaits. Alléluia. De temps en temps, quand l'ennemi nous attaque, quand nous sommes acculés par toutes sortes de puissances autour de nous, toutes sortes de nouvelles mauvaises autour de nous, apprenons à regarder en arrière et à nous rappeler, hey, Jésus a toujours été avec nous. Je dois de temps en temps l'expliquer ça à mes enfants dans l'église. Quand ils me disent, mais pasteur, comment on va faire? La crise, elle est là, les choses sont difficiles. Comment on va faire pour manger dans les mois qui viennent? Et puis je leur dis, mais écoutez, dans le passé, vous êtes aussi dit cela. Comment on va faire ceci? Et comment on va faire cela? Est-ce que vous êtes mort? Non! Est-ce que vous êtes mort de faim? Non! Est-ce que Dieu n'a pas pris soin de vous tout ce temps? Oui! Amen! Apprenons à regarder en arrière et se dire, mamma mia, le Seigneur est resté fidèle tout le temps, même les moments les plus difficiles. Vous connaissez cette histoire, peut-être que vous l'avez entendue. C'est une histoire qui a circulé dans le corps de Christ pendant tant d'années. C'est cet homme-là qui a un rêve et regarde un petit peu son passé. Et il se voit comme s'il marchait sur la plage. En fait, il se voit pas marcher, mais il voit les traces de pas de lui et aussi à côté de lui, une autre trace de pas. Puis tout d'un coup, simplement des traces de pas d'une seule personne. Et puis de nouveau deux personnes. Et il se rend compte que lorsqu'il y avait des traces de pas d'une seule personne, c'était le moment le plus difficile de sa vie. Et il se disait, avant Dieu marchait avec moi, il m'aidait, après il m'aidait, il était à côté de moi, mais au moment le plus difficile de ma vie, il m'a déserté. Et il est allé vers le Seigneur, Seigneur, tu m'as déserté au moment le plus difficile de ma vie? Déserté? Où c'est que t'étais trouvé toi ça, mon petit bout de chou? Ben oui, Seigneur, regarde l'histoire là, regarde là. Il y a deux traces de pas, ça c'est toi et c'est moi.
Ouais.
Et puis là, plus tard, il y a de nouveau deux traces de pas, c'est toi et c'est moi.
Ouais.
Et là, il y a une trace de pas, c'est que moi.
Non, tu te trompes.
Ben oui, c'est moi.
Non.
Mais tu étais où? La question, c'était pas où j'étais moi, c'est toi où tu étais toi. La seule trace de pas que tu vois, c'est moi qui te portais dans mes bras. Amen. De temps en temps, c'est bon de regarder dans le passé et se souvenir de tout ce que Dieu a fait de bon pour nous. Quand j'étais gamin, on avait un superbe chant cantique qui disait « Compte les bienfaits de Dieu, la 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 ». Vous vous rappelez de ce cantique? Un certain d'entre vous, « Tu verras en les grands, combien le nombre en est grand. » Amen, tu verras en adorant combien le nombre en est grand. Alléluia! C'est bon de temps en temps de regarder en arrière et de dire « Oh Seigneur, je me souviens, il y a eu un temps où j'étais dans une situation similaire et tu as pris soin de moi. » Un jour, lorsque David se trouve devant le géant, devant Saül pour lui dire « Je vais attaquer le géant. » Saül lui dit « Mais enfin, tu ne peux pas attaquer le géant. Tu es trop jeune. D'ailleurs, prends mon armure. » Et il voulait se moquer de David parce que Saül était un grand homme et David était encore un jeune adolescent. Et David, bien sûr, n'a pas réussi à mettre cette armure sur lui. Il était trop lourd, trop grand, trop spacieuse. Ne combattez jamais vos géants avec l'armure de quelqu'un d'autre. Vous risquez de tomber avant même de faire trois pas. Et puis finalement, il va enlever l'armure et dit « Non, moi je vais y aller avec ma fronde. » Et puis le roi dit « Mais enfin, tu peux pas, c'est trop dangereux, tu vas tuer !» Il dit « Mais écoute, lorsque le lion est venu et qu'il a pris le mouton, j'ai été tirer le mouton de la gueule du lion et j'ai tué le lion de mes propres mains. Et lorsque l'ours est venu, j'ai fait la même chose, je l'ai tué aussi de mes propres mains. Et ce géant que vous voyez là, cet impie, cet homme qui insulte l'armée de l'Éternel et par conséquent insulte l'Éternel, lui, je lui couperai la tête et je la donnerai en pâture aux oiseaux. » Amen. Pourquoi tu dis ça? Parce qu'il a regardé en arrière et s'est souvenu combien Dieu a été fidèle avec lui. Alléluia. Apprenons à nous rappeler des merveilles de Dieu. Paul parle lui-même du fait que Dieu l'a délivré. Il dit, celui qui nous a délivré, qui nous délivrera, et celui de qui nous espérons qu'il nous délivrera encore. Et ensuite, il termine en disant, que ceci soit une occasion de grâce à notre sujet. Amen. Hey, si vous voyez Dieu délivrer quelqu'un parmi vous, il suffit de temps en temps que, peut-être que certains disent, mais moi j'ai pas eu encore d'expérience que Dieu m'a délivré. Mais pensez peut-être à ce que Dieu a fait pour l'un ou l'autre de vos frères ou de vos sœurs dans l'église. Peut-être que quelqu'un a eu une excellente délivrance. Il s'est rendu compte que les choses n'allaient pas bien, que peut-être il allait perdre son travail, mais que Dieu a changé les choses en bien. Amen. Et vous dites, oh, c'est extraordinaire. Dieu, si tu l'as fait pour lui, tu peux aussi le faire pour moi. Voyez-vous, de temps en temps, regardez en arrière, c'est aussi regarder les bénédictions que les autres ont. C'est pour ça aussi que Dieu dit qu'il ne faut pas être envieux des bénédictions des autres. Réjouissons-nous avec eux, parce qu'un jour ce qui va sur eux viendra sur nous. Alléluia. Amen. La bénédiction de Dieu enrichit et elle ne s'accompagne d'aucun malheur, la Bible dit. Voyons ces choses-là. Apprenons à ouvrir nos yeux sur toutes les bonnes choses que le Seigneur fait. et vous les verrez en les comptant et en adorant, combien leur nombre en est grand. Amen. Quatrièmement, donc on avait dit regardez en haut, regardez à l'intérieur, regardez en arrière, et maintenant regardez au-delà de la montagne. Apprenons à ne pas observer la montagne, mais d'aller voir ce qui est de l'autre côté de la montagne. Un jour, le Seigneur m'a dit ceci. Il m'a dit, Donato, si les chrétiens arrivent à voir ce qu'il y a derrière la montagne, ce qu'ils voient derrière la montagne leur procurera la foi pour déplacer la montagne. Entre chaque bénédiction et nous, il y a toujours un Goliath. Qu'est-ce qu'il a fait David quand il a vu Goliath? Il a vu que le peuple tremblait devant Goliath. Ils avaient peur. Et il est allé faire une chose. Alors imaginez-vous, il y a une armée de professionnels. Armée, formée au combat. Ils ont fait du drill, ils ont fait du bivac, ils ont fait tout ce qu'il fallait. Ils ont fait les instructions qu'il fallait. Ils sont comme des forces presque spéciales. Et c'est une bonne armée. Et voici qu'une armée tremble devant un seul homme. Et la première chose que David fait quand il entend cet homme, il va et dit dites-moi, qu'est-ce qu'on donne à celui qui le tue? Voyez-vous, l'armée fixait les yeux sur le Goliath, sur le géant. David commençait à fixer ses yeux sur derrière le géant. Moi, ce qui m'intéresse pas, c'est le géant, c'est ce qui est après le géant. C'est quelquefois fois quand on prend un repas. Et ils dit, ça ne m'intéresse pas, c'est le repas, c'est après le repas. Moi, ce qui m'intéresse, c'est le dessert. Et donc là, il voulait, quel est le dessert? Une fois que je vais, toujours, qu'est-ce qui m'arrive? Qu'est-ce qu'on me donne? Et alors, on lui dit quelque chose avec ça. On lui dit, on le couvrira d'or, ce qui est déjà pas mal, hein. Vous savez, quand on couvre quelqu'un d'or, il se met à genoux et on met de l'or au-dessus. Et on le couvre d'or. Alors, plus grand que tu es, plus d'or que tu as. Plus gros que tu es, encore plus. Le jour où on te couvre d'or, si t'es mince, tu te fais gros, tu mets des coussins sous toi pour que tu aies encore plus d'or. On le couvre d'or. Ensuite, et son père sera affranchi. Ça veut dire qu'il ne devra plus payer de taxes. C'est presque mieux que d'être couvert d'or. Parce que de nos jours, on couvre les gens, on peut couvrir quelqu'un d'or et puis tout part avec les taxes. Alors il dit, et son père sera exempt de taxes. Et après, on lui dit, et on lui donnera la fille du roi. Alors là, c'est comme dans les dessins animés, les yeux de David se tournent, et il voit la fille du roi, et ses yeux sortent. Boum, boum, boum. David a vu le Goliath, le géant, il a vu la fille, il a dit, je veux la fille. Amen. Il est allé vers le géant, et il a abattu le géant. Alléluia. Écoutez, c'est important ce que je vous dis. Entre vous et votre bénédiction, il y a toujours un géant. Voyez le géant, puis regardez la bénédiction, abattez le géant. Amen. Alléluia. Apprenons à regarder au-delà de la montagne, de ne pas être bloqué par la montagne. Apprenons à voir au-delà. Certains disent, regardez un petit peu les espions. Moïse envoie 12 espions. Il envoie 12 espions dans le pays de Canaan. Ils reviennent. Et 10 d'entre eux disent, c'est vrai, c'est un pays où coule le lait ou le miel. Mais Dieu a oublié de nous dire. Faites très attention à ces gens qui disent toujours, Dieu a oublié de nous dire. Ils sont toujours là pour essayer de vous enlever votre bénédiction et de votre promesse. Ce sont des agents des géants. Hein? Ils sont complices des géants. Oh, c'est vrai! C'est vrai que si on évangélise à Drummondville, Dieu va toucher la ville, mais il a oublié qu'il y a des tas de forteresses dans cette ville et qu'à leurs yeux, nous sommes comme des sauterelles. Si Dieu parle, il faut obéir et pas écouter les destructeurs de rêves. N'est-ce pas vrai? Et de vision, et de but que Dieu donne. Voyez-vous, il y a des géants, et à leurs yeux nous sommes comme des sauterelles. Écoutez, ne vous prenez pas comme des sauterelles, mais faites comme Jean-Baptiste, mangez les sauterelles. Amen. Apprenons à voir au-delà des géants et dire, c'est vrai, si Dieu est avec nous, comme le dire Josué et Caleb, si Dieu est avec nous, si Dieu est avec nous, et la bonne nouvelle, c'est que Dieu est avec nous. Amen. Mais il disait, si Dieu est avec nous, nous irons et nous prendrons possession du pays. Alléluia. Géant ou pas géant, petit ou pas petit, sauterelle ou pas sauterelle, nous allons et nous allons prendre possession du pays. Il ne regardait pas le géant, il regardait le Dieu qui est plus grand que le géant. Amen. Gloire à Dieu. Ensuite, numéro 5, regardez autour de vous et fixez vos yeux sur le capitaine de l'Éternel des armées. Alléluia. Quelquefois les moments, et quels que soient les moments autour de vous, sachez toujours que le Seigneur est avec vous, que l'Éternel des armées est mou, il est ému lorsque quelque chose ne va pas dans votre vie. Lorsque Étienne était en pleine persécution, la Bible dit qu'il vit Jésus debout avec une épée en main. Amen. Mes amis, sachez-le qu'à chaque fois que vous regardez autour de vous et que vous fixez les yeux sur l'Éternel des armées, il est en train là, il est là, prêt à prendre son épée pour vous défendre. La Bible dit, que ferons-nous donc? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Qui nous accusera? Dieu est celui qui justifie. Qui nous condamnera? Christ intercède pour nous. En toutes ces choses, nous sommes plus que vaincus en Jésus-Christ. Non, en toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs en Jésus-Christ. C'était ma faute, hein. Non, vous aviez raison, hein. Je devais dire le verset correctement. Je vous prie de m'excuser, d'accord? Hein? En toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs en Jésus-Christ. Regardons le victorieux, regardons celui qui a remporté la victoire. Le Jésus dira, attention, que votre cœur ne se trouble pas, point parce que j'ai vaincu le monde. Voici la victoire qui a triomphé du monde, votre foi. Amen. Il n'a pas dit la foi de quelqu'un d'autre, il a dit votre foi. Voici la victoire qui a triomphé du monde, votre foi. Ensuite, regardons vers le bas. Pas regarder vers le bas comme un acte de défaite. Pas regarder vers le bas comme un acte de honte. Pas regarder vers le bas comme un acte de gêne. Mais regarder vers le bas. Parce que la Bible dit que nous sommes assis dans les lieux célestes en Jésus-Christ et que le diable est en dessous de nos pieds. Alléluia, regardez en bas et rappelez-lui toujours, mon ami, tu es fichu. Alléluia, quand vous vous combattez contre l'ennemi, c'est pas en haut qu'il faut regarder, c'est en bas qu'il faut regarder, parce qu'il est en dessous de vos pieds. La Bible dit que Dieu a fait de l'ennemi le marchepied de Jésus. Les pieds, c'est où à votre avis? C'est au-dessus ou en dessous de la tête? C'est en dessous de la tête. Si Jésus est la tête et nous sommes le corps, le pied est en dessous du corps aussi. N'est-ce pas? Eh bien, si l'ennemi est en dessous des pieds de Jésus, l'ennemi est aussi en dessous de nos pieds. Alléluia. Et de temps en temps, nous pouvons regarder en bas, avec joie, avec force, dans une position de victoire, et dire, tu as voulu m'avoir. Mais tu sais quoi? Je vais t'écraser. Et un jour, la Bible dit que Dieu écrasera l'ennemi sous nos pieds. Wow! Alléluia! C'est clair ceci. Romains 16, 20 le dit ceci. Et bientôt le Dieu de paix écrasera Satan sous nos pieds! Alléluia! Voyez-vous, quand on a les problèmes, au lieu de regarder les problèmes, il y a tellement d'autres endroits qu'on peut regarder. En haut? En arrière? En nous? En bas, de l'autre côté de la montagne, on ne garde pas le problème. On garde toujours la solution. Amen. Quand nous prions, prions la solution, ne prions pas le problème. Et finalement, c'est le dernier lieu stratégique et géographique, spirituellement, que nous devons voir. Et ça, c'est voir la moisson. La Bible dit, vous croyez que la moisson est dans 3 ou 4 mois, mais il dit, lève les yeux et regardez, la moisson est déjà prête. Alléluia. Non, écoutez-moi ceci, on va lire ça ensemble. On va lire deux passages ensemble. Et ces passages vont parler d'eux-mêmes. Mais regardez ce qu'ils disent ici. Dans Philippiens chapitre 1, versets 12 à 22, Paul parle de son affection, de sa tribulation. Paul est en prison. Il est dans la souffrance parce qu'il est en prison. Et voici ce qu'il dit. Oh, wow! Regardez ça. Chaque fois que l'ennemi attaque, hein, chaque fois que nous sommes dans les griffes de l'ennemi, écoutez-moi, levez les yeux parce que la délivrance approche. Amen. Et regardez ce qui va se passer. Parce qu'à la fin, c'est toujours nous qui sommes plus que vainqueurs en Jésus-Christ, n'est-ce pas? Voici ce qu'il dit. Je veux que vous sachiez, frère, que ce qui m'est arrivé a plutôt contribué au progrès de l'Évangile. Je suis en prison, mais ça a contribué au progrès de l'Évangile. En effet, dans tout le prétoire et partout ailleurs, nul n'ignore que c'est pour Christ que je suis dans les liens. Et la plupart des frères dans le Seigneur, encouragés par mes liens de dispute, les liens, ont plus d'assurance pour annoncer sans crainte la parole. Quelques-uns, il est vrai, prêchent Christ par envie et par esprit de dispute. Mais d'autres le prêchent avec des dispositions bienveillantes. Ceux-ci agissent par amour, sachant que je suis établi pour la défense de l'Évangile. Tandis que ceux-là, animés d'un esprit de dispute, annoncent Christ dans des intentions qui ne sont pas pures et avec la pensée de me susciter quelques afflictions dans mes liens. Qu'importe. De toute manière, que ce soit pour l'apparence, que ce soit sincèrement, Christ n'est pas moins annoncé. Je m'en réjouis et je m'en réjouirai encore. Car je sais que cela tournera à mon salut grâce à vos prières et à l'assistance de l'Esprit de Jésus-Christ. Selon ma ferme attente et mon espérance, je n'aurai honte de rien. Mais maintenant, comme toujours, Christ sera glorifié dans mon corps avec une pleine assurance, soit par ma vie, soit par ma mort. Car Christ est ma vie et mourir m'est un gain. Mais s'il est utile pour mon œuvre que je vive dans la chair, je ne saurais dire ce que je dois préférer. Amen. Amen. Qu'est-ce que Paul dit? Paul est en train de dire, hey, je suis en train de passer des moments difficiles, mais Dieu va changer le mal en bien et il va apporter le bien pour la moisson des âmes. Alléluia. Oh mes amis, n'oublions jamais que ce qui nous importe le plus, c'est de voir des hommes et des femmes, des enfants, des jeunes et des plus moins jeunes, des plus âgés venir à Jésus-Christ. Amen. Et toute situation dans laquelle nous trouvons, Dieu va pouvoir la changer en bien et ça va devenir une source de témoignage pour faire en sorte que des autres personnes puissent entendre notre témoignage et venir à Jésus-Christ. Je ne sais pas si certains d'entre vous vous rappelez l'histoire de ma famille. Nous avons 3 merveilleux enfants. Un garçon de 20 ans, une fille de 17 ans et un garçon de 14 ans. Il y a 17 ans, lorsque Gabriela est née, au bout de quelques mois, nous avons remarqué que Gabriela était née handicapée. Elle ne pouvait pas marcher, elle ne pouvait pas parler. C'est ce que les médecins nous ont dit. Elle ne marchera jamais, elle ne parlera jamais. Un virus est entré dans son corps lorsque ma femme était enceinte de Gabriela. Et ce virus s'appelle le CMV et il jette des gels, une sorte de gel sur chaque cellule du corps, dans le cerveau. Et à cause de ces gels, la cellule s'isole et puis elle meurt. Et toutes les cellules qui commandaient le parler et le marcher étaient détruites. Les médecins nous ont dit, votre fille ne marchera jamais et ne parlera jamais. C'était difficile à accepter cela. La Bible dit, quel rapport allez-vous croire? Le rapport des hommes? Le rapport des 10 espions ou le rapport de Dieu? Amen. Et mon épouse et moi, nous avons choisi de croire le rapport de la parole de Dieu, qui dit que par les meurtrissures de Jésus, notre petite Gabriela était guérie. Amen. Et bien que il n'y avait rien à faire au niveau humain, d'ailleurs, le médecin a simplement demandé qu'on fasse de la physiothérapie, elle disait comme ça au moins, ses membres ne vont pas devenir raides, ses jambes et ses bras. Il dit, il faut essayer de la faire bouger un petit peu, comme ça au moins, ça ne va pas être un enfant raide. Et lorsque nous l'avons apporté la kinésithérapie la première fois, elle l'a mis par terre, elle a essayé de vouloir faire quelque chose avec. Elle a dit, je ne peux rien faire avec cette chose-là. Pour vous dire, quoi. Il n'y avait rien à faire. Rien. Et qu'est-ce qu'elle en a à faire ? Allons-nous croire Dieu ? Ou allons-nous croire les hommes ? Ou allons-nous croire Dieu ? Nous avons cru Dieu. Amen. Et nous avons fait ce que nous savions faire, ce que nous avions appris grâce à Réma, grâce à l'enseignement que Réma et que des églises comme celle-ci nous ont enseigné, à savoir que tu crois dans ton cœur et tu dis de ta bouche. Amen. Tu crois dans ton cœur que Dieu a ressuscité ta fille et tu le confesses de ta bouche. Et nous l'avons fait, nous l'avons confessé pendant 2 ans. Gabriela, par les meurtrissures de Jésus, tu es guéri. Gabriela, par les meurtrissures de Jésus, tu es guéri. Tu marches, tu es en bonne santé, tu entends, tu parles, tu rigoles, tu joues, tu t'amuses. Gabriela, tu es une fille qui peut tout faire par qu'est-ce qui te fortifie. Nous avons confessé, nous avons déclaré, nous avons proclamé la parole de Dieu pendant 2 ans. Amen. Et pour raconter une longue histoire brève, au bout de 2 ans et demi, elle était complètement guérie. Amen. Alléluia. Voyez-vous, c'était une tribulation terrible pour nous. C'était difficile. Et certainement, ce n'est pas Dieu qui a envoyé cela. Amen. Dieu n'est pas la source de la maladie. Le diable est la source de la maladie et le péché. Dieu est celui qui vient tirer la maladie. Amen. Ce n'était pas Dieu qui nous l'a envoyé. C'était la vie. C'est comme ça. Il s'est trouvé que ma femme était là où le virus était là. Maintenant, je rigole, mais à ce moment-là, je n'ai pas trop rigolé. Hein. Mais voyez-vous, malgré tout cela, le résultat fait que beaucoup de gens sont venus à Jésus-Christ. Parce que Dieu a changé ce que le diable a voulu faire pour le mal, Dieu l'a changé en bien. Amen. Quand Joseph a été vendu par ses frères, et que presque 15 ans, 17 ans plus tard, il revoit ses frères, et que Joseph est un genre de premier ministre, gouverneur de toute l'Égypte. Il voit ses frères, il se dévoile, ses frères ont peur, ils ont peur d'une vengeance. Et Joseph dit, non, ce que vous avez entendu pour le mal, ce que vous aviez planifié pour le mal, Dieu l'a changé en bien. Amen. La Bible dit que Joseph est un des ancêtres, entre guillemets, de Jésus-Christ. C'est la même lignée que Jésus. Amen. L'ennemi a voulu détruire Joseph, mais Joseph est devenu vainqueur, il a sauvé son peuple à court terme, mais il a sauvé aussi l'humanité à long terme, en pouvant donner Jésus-Christ sur la terre. Amen. On peut passer des moments difficiles, mais rappelons-nous toujours, à la fin, quels que soient les moments difficiles, si nous apprenons à regarder en haut, à regarder à l'intérieur, à regarder autour de nous, à regarder en bas, à regarder de l'autre côté de la montagne et à regarder la moisson, nous allons voir qu'en bout de compte, non seulement nous deviendrons vainqueurs, mais le royaume de Dieu aura avancé. Amen. Un dernier passage que je voudrais lire et puis on va arrêter là. Acte chapitre 4, verset 1 à 4. Il dit ceci. Tandis que Pierre et Jean parlaient au peuple, survint les sacrificateurs, le commandant du temple et les sadducéens. Mécontents de ce qu'ils enseignaient, le peuple annonçait en la personne de Jésus la résurrection des morts. Ils mirent la main sur eux et ils le jetèrent en prison jusqu'au lendemain, car c'était déjà le soir. Mais regardez ça. Ils sont mis en prison. Cependant, beaucoup de ceux qui avaient entendu la parole crurent, et le nombre des hommes s'éleva à environ 5000 personnes. Alléluia. Amen. Alors, vous avez très bien compris, nous ne sommes pas en train de dire ici qu'il faut courir après des problèmes, c'est pas ça. Ce qu'il faut faire, c'est que lorsque le problème est là, lorsque les difficultés sont là, c'est savoir où regarder. Lorsque Job a souffert, sa question était, pourquoi ? Et souvent, quand on passe des moments difficiles, on se dit, mais pourquoi? Pourquoi moi? C'est vrai ou c'est pas vrai? C'était pas la bonne question. La bonne question, c'est vers où allons-nous jeter les yeux? Jetons les yeux, fixons les yeux sur Jésus, qui est l'auteur et le consommateur de notre foi. Ayons foi, ayons confiance que ce Jésus qui a vaincu le monde nous donnera la victoire dans cette situation. Il changera le mal en bien, la malédiction en bénédiction. Amen. Dites avec moi, je suis un béni-moi et je vis dans le pays de la bénédiction permanente. Allez, dites-le encore, c'est tellement beau. Je suis un béni-moi et je vis dans le pays de la bénédiction permanente. C'est la volonté de Dieu pour vous. Amen. C'est l'abondance de Jésus-Christ. Et quand une période difficile vient, le monde autour de nous va mal, c'est vrai. Mais si nous levons les yeux sur Jésus-Christ, nous allons sortir de cette situation plus que vainqueurs, victorieux en Jésus-Christ. Amen. Je voudrais demander de vous lever, s'il vous plaît. Et je voudrais demander si, parmi vous, il y a quelqu'un, peut-être une, deux, trois, quatre, cinq personnes. Peut-être que vous ne connaissez pas Jésus-Christ personnellement. Oui, vous avez entendu parler, vous avez entendu ceci, et à droite et à gauche. Vous avez entendu des beaux témoignages. Mais d'une manière personnelle, vous ne connaissez pas Jésus. Je peux demander à chacun de fermer les yeux, s'il vous plaît. Merci. Et d'une manière personnelle, vous savez que vous ne connaissez pas Jésus. Vous savez que Jésus n'est pas encore en relation avec vous. Peut-être que vous ne savez pas où c'est que vous allez passer l'éternité. La Bible dit que si vous recevez Jésus comme Seigneur et Sauveur de votre vie, vous passerez l'éternité au ciel. Le ciel sera votre destination. Où voulez-vous passer l'éternité? Avec Dieu ou sans Dieu? Si ce matin vous voulez prendre une décision pour Jésus et dire, moi je veux servir Jésus-Christ et je veux que le ciel soit ma destination, levez la main où vous vous trouvez et nous prierons pour vous. N'ayez pas peur de lever la main. Jésus veut vous donner la vie éternelle. Il veut vous donner la vie en abondance. Peut-être que vous n'êtes pas certain, mais vous pouvez avoir la certitude aujourd'hui que le ciel sera votre destinée, votre destination. Y a-t-il quelqu'un qui lève la main? Si vous levez, je veux lever là-haut pour que je puisse vous voir. C'est un geste pour dire, oui, moi je veux recevoir Jésus comme Seigneur de ma vie. Peut-être que vous les connaissez, que tous ici vous connaissez Jésus personnellement, et je me réjouis. Mais si quelqu'un encore est là et n'a pas cette certitude qu'il connaît Jésus personnellement comme le Seigneur de sa vie, n'hésite pas. La Bible dit, si tu entends sa voix, n'endurcis pas ton cœur. Amen. Alléluia. J'aimerais prendre quelques minutes, et je sais que le pasteur était d'accord avec ça, pour prier pour ceux d'entre vous qui avaient besoin d'une prière. Vous êtes peut-être acculés par toutes sortes de difficultés. Peut-être certains ont peur de ce qui se passe dans l'avenir. Mais Dieu veut vous donner la sécurité, la paix, et veut vous aider à regarder vers Jésus, l'auteur et le consommateur de votre foi. Alors si vous avez besoin de la prière, je vous demande simplement d'avancer devant et de le recevoir. Je prierai pour vous et Dieu vous touchera. Amen. Peut-être certains d'entre vous, vous êtes malades, approchez-vous et Dieu vous guérira. Amen. Alléluia. N'hésitez pas à avancer. Amen. Voilà. Hallelujah, hallelujah. Oh, hallelujah. Oh, hallelujah. 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 Hallelujah.